France Inter, le 18-20.
Quand une présentatrice télé fait une blague, c'était hier soir, sur 22 milliardaires en short pour lancer un sujet Coupe du Monde, elle est obligée de s'excuser sur les réseaux sociaux tant elle a provoqué un tollé. Or, c'est pas faux que le foot, comme dirait quelqu'un, c'est un peu un pognon de dingue. Et pourtant, on sait aussi que parfois, on en aura peut-être un aperçu, hélas cette fois encore, mais espérons que non, on sait aussi que parfois le foot est capable de provoquer des comportements hors de toute mesure, on sait ce que c'est que le hooliganisme. Et pourtant, on sait aussi que ça triche parfois, regardez l'état de la FIFA. Et pourtant, il ne peut pas y avoir 3 milliards d'irresponsables imbéciles dans le monde, c'est pas vrai. Je vais pas vous ressortir Camus, mais saviez-vous que Shostakovich était fou de son équipe de Leningrad? Saviez-vous que Giroudou adorait le foot? Nabokov aussi, Pasolini, Céline, André Mauroy, Monterland plus près de nous, Olivier Guez, bien sûr, l'écrit magnifiquement Philippe Delerme aussi. Devant des joueurs d'exception, des émotions qui soulèvent les peuples, les avenues qui se remplissent de gens heureux, faudrait-il bouder son plaisir et jeter tout ce qui chavire la planète en levant le petit doigt d'un air dégoûté? Pendant la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non, tout s'arrête. On va chez le voisin qui a une télé plus grande, les voitures contournent la foule qui déborde sur le trottoir des cafés qui retransmettent les matchs. On fait la queue sans râler pour entrer dans les fan zones. On aime le geste, on aime l'ambiance, on aime l'histoire. On le vit au premier degré, on le vit intello, on le vit cérébral, on le vit basique, peu importe. Dans cette première phase, avant les huitièmes de finale, sachez-le, il y a un match toutes les 11 heures. Donc préparez-vous. Ami râleur, ami allergique, boudeur des grands-messes en perruque et maquillage, réfractaire au corner, révolté du maillot, récalcitrant de la chips, laissez passer la horde de ceux qui mouillent rarement le maillot en sport, mais qui le portent devant la télé, respirez par le ventre, ça va bien se passer, on aime le foot ce soir avec beaucoup de gourmandise.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
Gaël, bonsoir. C'est à toi, absolument Gaël, on t'écoute. Bonsoir Gaël.
Bonsoir.
Ah voilà, salut Gaëlle. On t'écoute Gaëlle, sois bienvenue.
Bonjour.
Ouais.
J'aime l'équipe de France.
Tant mieux.
Elle est forte.
Mm-hmm.
Kylian Mbappé, j'espère qu'il rentrera de sa blessure. Je l'aime beaucoup. Et aussi les autres joueurs.
Ok, on t'écoute, vas-y, continue.
J'espère qu'ils gagneront la Coupe du Monde avec tous ces bons joueurs.
Et nous aussi.
Et...
Vas-y.
Oui.
Encore un mot, Gaël?
Oui.
Allez.
Je...
Tu
Je les soutiens beaucoup. J'espère qu'ils gagneront la Coupe du Monde.
Et
en affrontant toutes ces équipes.
Eh ben, écoute, nous aussi, c'est ce qu'on nous souhaite. Merci beaucoup, Gaël. Merci de ce courage d'entamer le téléphone sonne. On est ensemble jusqu'à 20h pour discuter de cette Coupe du Monde qui commence simplement parce qu'on peut difficilement passer à côté. Pourquoi donc, je le disais, bouder notre plaisir. Autour de la table ce soir et jusqu'à 20h, je commence avec vous, Frédéric Jossinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du foot féminin à la Fédération Française de Football, bonsoir. Paul Dietschy, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes prof d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté, vous êtes spécialiste de l'histoire du foot, vous avez écrit l'histoire du foot et c'est publié chez Perrin. Bonsoir Claude Askolovitch.
Bonsoir.
Vous êtes le régional de l'étape, on vous connaît évidemment, c'est vous qui présentez la revue de presse le matin sur Inter.
Sur ce même fauteuil.
Exactement, on ne change pas vos habitudes.
On ne change pas les équipes. On ne change pas de poste, c'est primordial.
Sinon, ça porte malheur pour les matchs d'ailleurs. Il faut toujours être un peu superstitieux. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
C'est vous le spécialiste sport de Radio France à nos côtés. Ce soir, on est comme Gaël, nous. Tiens, Claude, je vais commencer avec vous. On est comme Gaël, on espère que l'équipe de France va gagner. On est content que ça commence, non?
Moi, je souhaite à Gaël de ne pas oublier cette année. Ça peut être magnifique si on gagne. Je ne sais pas quel âge il a, Gaël.
8
ans. Bah, 8 ans. Bon, mes grands-enfants étaient un peu plus jeunes quand la France a gagné en 98. Et quand bien même ils n'avaient pas tout perçu, ils n'ont pas oublié. Mais il y a d'autres enfants qui avaient à peu près ce même âge en 1982 quand la France n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais aurait dû la gagner et a perdu dans ce match dont tout le monde se souvient encore contre l'Allemagne à Séville. Je souhaite à Gaël de ne pas oublier cette année 2018. Soit que nous soyons magnifiques et nous l'emportions, soit que nous soyons magnifiques et ne l'emportions pas. L'important, moi je suis à moitié hollandais, j'ai jamais oublié la Coupe du Monde 1974, que la Hollande aurait dû remporter, elle ne l'a pas remporté, je n'en veux même pas avec Beckenbauer. L'important, c'est que cela imprime, que cela marque et que cela accompagne. Et plus tard, Gaël, qui parle tellement bien qu'il sera écrivain, nous racontera cette année que nous vivons avec lui.
Paul Dietschy, c'est ça le football. J'allais vraiment venir sur ce terrain-là. Ça tricote des souvenirs, en fait. Effectivement, vous avez parlé de 1982. On l'a, nous, ce souvenir de 82, c'est notre génération, en fait. Ça tricote des souvenirs. Et en effet, il y a une génération 98 qui les a tricotés. Il va falloir en tricoter d'autres désormais pour un petit Gaël qui a 8 ans, en fait. C'est à ça que ça
oui,
sert.
Oui, ça mélange mémoire individuelle, donc émotion, où j'étais, j'avais quel âge, je faisais quoi à ce moment-là, et puis une mémoire collective qui unit, qui est aussi liée au fait que nous vivons quand même, malgré le terrorisme, dans un monde de paix depuis 1945. Et ce qui fait que les grands événements historiques qui rassemblent de plus en plus, c'est le sport. Et en plus, finalement, c'est un des rares lieux où les Français s'approprient les couleurs nationales, les portes, chantent la Marseillaise. C'est ce qui fait évidemment la spécificité de cet événement.
Événement historique, vous dites quand même. Vous l'appelez comme, vous le mettez au même plan qu'un événement historique, un événement d'histoire, en fait.
Oui, parce que 98, il y a quand même une émotion profonde, un sentiment d'égalité. Alors, je ne comparerai pas ça à 1848 et à la naissance du suffrage universel.
Non.
Mais on a souvent comparé ça à la Libération, par exemple. Alors, les choses sont évidemment
On a compté les chiffres, en fait. Oui. Je me souviens, en 98, on comptait les chiffres sur les Champs-Élysées. Oui. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de compter les chiffres.
Non, mais alors il y a quand même une particularité, c'est que c'est une émotion très éphémère, et qui s'oublie vite, qui est évanescente. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité. La Coupe du Monde, c'est d'abord le plaisir de se retrouver entre soi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs, qui s'y intéresse assez peu finalement. J'ai un fils pour qui c'est un sport de dégénéré, mais je pense qu'il sera content quand même.
Il sera donc déshérité.
De regarder, tout à fait. Mais il sera content quand même de regarder les matchs en famille, avec des amis, pour finalement ce sentiment d'être ensemble.
Frédéric Jossinet, vous qui êtes directrice du foot féminin à la Fédération Française de Football, vous le sentez comme ça aussi?
Oui, moi je pense surtout qu'il y a des choses qui marquent. Et aujourd'hui, on parle de 98. On n'a pas besoin de dire de quoi on parle, on a compris de quoi on parlait. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après 98. Et surtout, je trouve que c'est ça qui marque, en fait. C'est qu'on a...
Sauf qu'il ne faut pas que l'après devienne trop long non plus, au bout d'un moment. Non.
Oui.
20 ans, c'est un chiffre rond, c'est bien.
20 ans, c'est bien. On est quand même, on est passé par 2016 aussi, avec une belle fête populaire en France, avec une belle équipe de France aussi. Donc ça marque aussi. Mais c'est vrai que c'était il y a encore pas très longtemps. Donc c'est vrai qu'on espère que 2018 marquera aussi l'histoire et qu'on parlera de 2018 comme on parle aujourd'hui de 98.
Est-ce qu'on est parti, Fabrice Rigobert, je termine le tour de table avant qu'on retourne au standard, est-ce qu'on est parti pour une équipe qui peut soulever le même genre d'émotion qu'avait soulevé cette fameuse équipe 98 dont on parle beaucoup, effectivement? Est-ce qu'on a tout oublié des déboires de l'équipe de France pour revenir en terrain totalement vierge?
J'ai la faiblesse de croire que cette équipe-là peut effectivement nous offrir le meilleur parce qu'elle est jeune, elle est fraîche. Quand on entend, quand on écoute Kylian Mbappé qui va porter cette attaque, il a seulement 19 ans, il n'était pas né en 1998. Voilà, c'est le renouveau du football français. On a mis Naïsna 2010 à la poubelle. Cette fois, les joueurs sont descendus du bus, ils s'entraînent.
Il en reste
non, 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 faut oublier tout D'accord. ça. Il faut, voilà, c'est terminé. Et là, on a l'une des équipes de France les plus jeunes. Et la confiance est dans cette jeunesse. Et c'est cela que l'on va retenir et on va se laisser porter par ça en espérant que le premier match ce soir qui s'est terminé par un 5-0 pour la Russie va nous offrir un déluge de buts jusqu'à la mi-juillet, jusqu'à la finale.
En même temps, il paraît que c'était déluge, pas super beau à voir. Vous l'avez regardé, vous,
Fabrice? Oui, il y avait quelques buts plutôt... franchement, des buts plutôt sympathiques.
Bah, Frédéric Jossinet s'est amusé en le regardant, en fait.
Au-delà de m'amuser, moi, j'ai pris plaisir en le regardant. C'est vrai qu'on n'avait pas trop de repères sur les deux équipes. Honnêtement, la Russie a été non seulement à la hauteur, mais avec des beaux buts et des beaux gestes. Donc, ça promet pour la suite.
Allez, bonsoir Alain.
Bonsoir Madame Saint-Es.
Bonsoir Monsieur Alain, allez-y, mais moi aussi je suis contente, moi aussi je suis ravie de vous parler, on vous écoute.
Vous êtes une journaliste avec un grand J, Madame Saint-Es.
Eh bien écoutez, formidable.
Je le dis sincèrement.
Est-ce que vous pouvez me le répéter? Je vais l'utiliser comme sonnerie de portable.
La dernière fois que je vous ai parlé, c'était quand Barack Obama avait été élu, vous étiez aux États-Unis.
Ah ben, écoutez, ça ne nous rajeunit pas, vous et moi.
Ouais, c'était le bon temps.
Il y avait eu une Coupe du Monde d'ailleurs à cette époque-là aussi, à laquelle l'Amérique participait.
C'est 2008, il y avait un championnat d'Europe.
Absolument.
Avec une demande en mariage de Raymond Domenech dans mes souvenirs. C'est là.
Bon, moi je vais casser un tout petit peu l'ambiance.
Allez-y.
J'ai 58 ans, moi la Coupe du Monde je la regarde depuis 1966. J'ai tous les souvenirs des Coupes du Monde, l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin tout ça c'est... Mais cette année, je ne regarderai pas du tout la Coupe du Monde. J'aime toujours autant le football, je suis un passionné de football, mais je ne peux pas cautionner qu'on aille faire la Coupe du Monde chez Monsieur Poutine. Voilà, c'est, je l'ai dit, je vais me priver de soirée avec mes copains. Les gens qui je l'ai dit me prennent pour un type un petit peu illuminé, parce qu'en me disant que je n'aurai pas d'influence sur quoi que ce soit, peut-être, mais moi je vis dans un pays libre, je suis un homme dans une grande démocratie, quoi qu'on en dise, et il y a trop de choses que je reproche à ce monsieur et à son gouvernement, et j'aurai la même attitude dans 4 ans. Et je veux juste en finir en disant que c'est dommage qu'on n'ait même pas eu l'intelligence, enfin la FIFA, de donner la Coupe du Monde au Maroc avec tout ce fric qu'il y a dans le foot maintenant. Je trouve qu'il y a des choix qui sont faits, qui sont des choix complètement incohérents. Monsieur Poutine a voulu un jour les JO, il a eu ses JO, il voulait sa Coupe du Monde, on lui a donné sa Coupe du Monde. Mais moi, homme libre en France, je ne regarderai pas une minute de cette Coupe du Monde.
Mais alors, Alain, puisqu'on se connaît, vous allez pouvoir me dire ça réellement, si la France est dans les phases finales, si on se retrouve en quart, en demi.
Ah non, mais je vous assure,
sérieusement, vous mettrez au fond de votre lit avec des boules caisses.
Ah non, mais la vie, il y a tellement de choses à faire dans la vie. C'est un choix d'homme, voilà, c'est un choix que j'ai mûri depuis très longtemps, ça fait des mois que j'y pense, et je ne suis pas plus brave qu'un autre, ni plus con, mais j'ai simplement des convictions d'homme, et puis elles m'empêchent de regarder cette Coupe du Monde. Je ne peux pas.
Et donc, et on a bien compris, Alain, pas de Qatar non plus dans 4 ans, j'imagine.
Ah non, bah bien sûr, hein, attendez, je reste dans ma logique. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
Eh ben, on a entendu ce que vous vouliez dire. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à le dire au 01 45 24 7000. Je vous voyais réagir, Claude Askolovitch.
Quand j'avais 15 ans à peu près, la France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de 1978. C'était la première fois depuis très longtemps qu'on y avait droit, avec une équipe magnifique, avec les Stéphanois et Platini. Et j'étais jeune lycéen de gauche, plutôt enclin à être pour le boycott. J'ai pas tenu 10 minutes, mais j'avais raison. Et je pense que monsieur a raison. Mais ce qui est intéressant, il a raison de son point de vue. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il éprouve le besoin de nous le dire atteste de l'importance du football. Mmh. Il ne me viendrait pas, je n'ai pas plus d'affection ou d'empathie pour le régime de M. Poutine, mais il ne viendrait pas à l'esprit de dire « Je ne regarderai plus les films d'Eisenstein, je n'écouterai plus du Shostakovich, je ne mangerai plus de blinis, je n'entendrai plus de films russes, je ne toucherai à rien de la Russie ». Non, ça porte sur le football plus, je parie, que sur les Jeux Olympiques. Et paradoxalement, le fait que pour des raisons éthiques, politiques, humaines, personnelles, quelqu'un décide de se priver de la Coupe du Monde de football, atteste l'importance du football. C'est quelque chose qui marque. C'est très paradoxal. Je pense, moi, que les rythmes politiques sont indépendants des rythmes du football. En 1978, la victoire de l'Argentine contre les Pays-Bas, une nouvelle fois, nous n'avions pas de chance, n'a pas empêché le régime de tomber 4 ans plus tard, abattu par l'armée de Madame Thatcher, qui n'était pas un ange non plus. Ce sont des rythmes différents. Je comprends parfaitement cette position, mais elle prouve l'importance du football. Une fois qu'on a dit ça, et ce qui est fascinant dans le football, en dépit de Camus, où Camus exprime une morale individuelle, ce que je sais de plus sûr sur les hommes, c'est sur le terrain de foot que je l'ai appris, il y a une logique, une beauté, quelque chose d'intrinsèque au football, en dépit de lui-même, en dépit du fric, en dépit de la Coupe du Monde au Qatar, qui bien sûr a été achetée, en dépit de tout, en dépit du fait qu'une des plus belles équipes de football de l'histoire, l'équipe italienne des années 30, se soit révélée sous Mussolini, dans une compétition organisée chez Mussolini. En dépit de tout cela, subsiste une beauté propre, parce que le football est aussi un art, il a sa propre histoire, sa propre logique, ses propres valeurs, qui peuvent ne pas correspondre aux miennes en tant que citoyen, mais qui pourtant existent. Cette dichotomie-là, on l'a entendue à l'antenne, je l'assume. Je suis d'accord avec monsieur et je vais regarder la Coupe du Monde.
C'est le foot ou c'est le sport quand même? Parce que que vous dites, ça existe aussi, ça peut exister sur l'athlétisme, ça existe sur d'autres choses, moi, Paul Yetchi.
Ça existait sur les Jeux Olympiques aussi, où il y a eu quand même des demandes très fortes de boycotter, de pas regarder, ni en tant que téléspectateur, même des demandes très fortes en disant aux athlètes, n'y allez pas. Après, chacun ses positions. Mais...
Moi, je crois que la question que pose Alain, c'est la question du sport international. Avec qui doit-on jouer? Contre qui doit-on concourir? Si on ne se tient qu'aux démocraties dans lesquelles il y a le moins de corruption, où tout va bien, on va jouer contre la Suède, qui est une bonne équipe. Mais ça veut dire que c'est la fin du sport international. Le risque du sport international, c'est évidemment de rencontrer des pays où on ne respecte pas forcément les droits de l'homme, des pays où il y a d'autres cultures. Donc c'est un choix, mais c'est aussi un choix d'une certaine forme de dialogue.
Alors la question que Alain pose derrière aussi, c'est au fond, Qu'est-ce que ça rapporte et à qui? On avait dit, moi je me souviens au moment des Jeux Olympiques en Chine par exemple, mais ça permettra à la Chine aussi de s'ouvrir, de voir comment ça va se passer autour d'elle, comment ça se passe autour d'elle, et peut-être que ça l'aidera à s'ouvrir plus vite, etc. La Russie n'a absolument pas besoin de s'ouvrir plus vite ou quoi que ce soit de ce genre. Là, Poutine voit très bien où sont ses propres intérêts. Donc en gros, on sait ce que gagne Poutine, pour aller dans le sens d'Alain, qu'est-ce que gagne le foot?
Le foot gagne d'abord, il y a quand même, on rend hommage finalement à une grande tradition du football qui était le football russe avant soviétique. Donc c'est normal que le football aille aussi en Russie. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure.
Mais le football russe quand même, honnêtement, Paul Dietschy, il en reste pas, enfin, ça a été une grande nation de football aujourd'hui.
Il peut renaître, il y a des clubs qui sont assez solides. On peut imaginer que dans 4-8 ans, il y a une renaissance. Mais, me semble-t-il, les Coupes du Monde ne permettent pas au régime de gagner beaucoup de choses. Coupe du Monde, c'est une dépense qui est purement gratuite. Est-ce que Poutine a gagné beaucoup de choses à Sotchi? Il a gagné des ennuis parce qu'il y a eu l'histoire de dopage derrière. Pendant un mois...
Et des dettes.
Et pendant un mois, le pays, finalement, est scruté par tous les médias internationaux et la vitrine peut être vite cassée. On l'a vu, par exemple, pour le Brésil. La Coupe du Monde 2014, elle a été désastreuse. Non seulement parce qu'elle a mis, finalement, en lumière des enjeux sociaux. Pourquoi construire un stade à Manaus et pas des logements? Et puis, il y a cet accident industriel du 7-1 en demi-finale. Donc, c'est un pari assez risqué pour Poutine, et je pense pas que finalement il puisse en bénéficier de manière extraordinaire.
Tiens, on va rester dans le même esprit, dans le même thème. En tout cas, bonsoir Guy.
Oui, bonsoir. Je voudrais rebondir sur la question de l'intervenant le dernier et la réflexion de M. Askonovic. C'est vrai, moi, d'une part, je regarderai le foot, mais je me demande, et ma question est précise, qui choisit les pays? On a parlé de démocratie, on a parlé de pays riches, je pense au Qatar, et il est certain que ces critères, c'est des critères financiers, politiques et de pouvoir. Et ça, je suis d'accord avec M. Askonovic, on ne peut pas plaisanter avec tout le monde, comme disait Desproges. On peut rire, mais pas avec n'importe qui. On peut jouer au foot, mais peut-être pas avec n'importe qui. C'est-à-dire des pays où il n'y a pas de liberté. Et je pense que le foot est un sport noble et il faut regarder. Pourquoi? Pour les joueurs. Les joueurs, ils sont pour rien là-dedans. Et je crois qu'il faut leur rendre cette justice et cette politesse.
Merci beaucoup Guy. Fabrice Rigobert, d'abord sur le démarrage de la question de Guy, qui choisit, comment ça se passe? Rappelez-nous un peu comment fonctionnent les processus.
Les règles ont changé dans l'attribution des Coupes du Monde. Auparavant c'était l'ancien comité exécutif, donc on avait vraiment le sentiment qu'on pouvait acheter les choses plutôt facilement. C'est ce qui s'est passé pour le Qatar, qui organisera la prochaine Coupe du Monde. Cette fois, pour l'attribution de la Coupe du Monde qui se déroulera donc au Canada, au Mexique et aux États-Unis, le vote concernait l'intégralité des représentants de la FIFA, donc une centaine de membres. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour essayer de noyauter tout cela, même si c'est toujours possible, puisqu'on l'a vu avec le CIO auparavant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que effectivement, on peut tout entendre sur les grandes fédérations internationales. Le CIO, la FIFA se sont trompés à un moment donné en essayant d'aller récolter de l'argent, en se retranchant aussi derrière ce précepte qui est de dire « oui, on va essayer d'apporter le foot ou le sport dans des endroits où il n'est encore jamais allé pour le développer un peu plus ». Donc il y a ces deux aspects-là qui ont lutté pendant de très nombreuses années et nous sommes en train de revenir là maintenant vers des choses un petit peu plus raisonnables.
Frédéric Jocinet, parce que je sais que vous alliez partir donc sur les attributions, sur la manière dont ça se fait, est-ce qu'il faudrait, on va pas en venir un jour à décider de faire une colonne avec les pays respectables dans lesquels on peut organiser des Coupes du Monde et une colonne avec les pays non respectables, ça deviendrait compliqué ou faut-il le faire?
Non, moi je crois que en effet le mode aujourd'hui d'attribution a changé, comme on vient de le dire, pour justement toutes les problématiques qu'on a évoquées, tous les malheureusement les attributions à un moment donné qui ont eu lieu, et c'est évidemment ça a été le cas dans le football, ça a été le cas sur des Jeux Olympiques, mais ça a été le cas aussi sur des championnats du monde où évidemment l'aspect médiatique est moindre, mais ça a été le cas aussi à un moment donné. Donc aujourd'hui, on est reparti pour assainir, on va dire, justement, et c'est pour ça que ça a évolué, en tout cas sur le mode d'attribution, tant mieux. Et je pense que ça va continuer et le mode d'attribution, y compris sur les autres compétitions, vont évoluer et vont changer.
Je vois que tout le monde lève la main, parce que je vais quand même vous laisser partir, Frédéric Jossinet. Juste rajouter quand même que la Coupe du Monde pour les filles, ça se passe en France. Oui. Et c'est l'année prochaine.
Exactement.
Rappelons-le quand même.
En plus, on a deux Coupes du Monde. C'est ça qui est super quand même chez les filles. On a les moins de 20 ans cet été en Bretagne. Voilà. Et on a l'année prochaine la Coupe du Monde senior avec les A, avec une belle équipe de France. Et c'est en juin 2019.
Et c'est ce qui vous donnera l'occasion de revenir.
Et la joie, cette fois, sera sans mélange, car nous sommes un pays honorable et démocratique.
Exactement.
Et il y a beaucoup moins d'argent corrupteur dans le foot féminin que dans le foot masculin.
Oui, bah pour, j'allais, un est-ce, peu que, moins. Est-ce que j'ai envie de dire pour l'instant, d'ailleurs, parce que chez les filles, on n'est pas encore aussi professionnels qu'on l'est chez les garçons, en tout cas pas aussi développés qu'ils peuvent l'être, donc pas pour l'instant ou jamais?
Non, certes, mais on sait aussi, on sait ce qui s'est passé aussi par le passé, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et ça c'est quand même plutôt positif pour nous. Après, il y a quand même une économie naissante, et j'allais dire tant mieux. On n'arrivera certainement jamais comme les garçons, mais peut-être que tant mieux aussi.
Bah, on vous souhaite aussi d'être payé comme les garçons, je dis ça, je dis rien, mais au passage, quand même, à un moment ou à un autre.
Il faut faire les choses dans, on va dire, dans le bon sens. Dans le bon sens, il ne faut pas aller trop vite.
Dans le bon sens.
Mais déjà, on a une belle économie naissante et c'est important.
Dans le bon sens et dans l'ordre. Merci beaucoup, Frédéric Jossinet. Je vous laisse partir. Vous vouliez intervenir, Paul Dietrich.
Oui, sur la question d'attribution, on a la mémoire courte en France. À la fin de la campagne électorale en 88, Jacques Chirac avait donné comme dernier argument que Joe Avelange lui avait assuré que la coupe du Monde serait organisée en France.
Qui était le grand président de la FIFA à l'époque, un autocrate absolu du monde du football, mais qui représentait le tiers-monde face aux vieux pays européens.
Et finalement, bon, la France l'a eu en 92, contre le Maroc, donc c'est toujours un enjeu de pouvoir. Hein, la diplomatie française, l'État français, évidemment, s'est rangé auprès de la Fédération française, donc il faut pas être naïf. Hein, que les pays soient des démocraties ou qu'ils soient des régimes autoritaires, ils mettent tout dans la balance pour avoir la Coupe du Monde.
Moi, il y a une chose qui m'intrigue, c'est que, autant que je sache, mais vous m'arrêterez si je me trompe, en ce moment, il y a une sorte de fronde des villes pour l'organisation des JO. Alors, j'entends bien, c'est beaucoup plus cher d'organiser des JO, mais il y a une fronde autour des JO. Cette fronde-là, parce que c'est cher aussi de faire une Coupe du Monde, elle n'existe pas pour le foot, ou pas? Ou je me trompe?
Non, elle n'existe pas. D'abord, c'est à l'échelle nationale, donc c'est un petit peu différent. C'est un spectacle quand même qui est extrêmement populaire, qui draine beaucoup de supporters.
Est sûr qu'il drainera, en fait, peut-être, contrairement au JO, d'ailleurs.
Oui. En même temps, les pays qui ont été candidats et qui ont la Coupe du Monde, c'est quand même des pays émergents, la Russie, le Qatar. Ce qui va se passer dans le futur, avec la Coupe du Monde à 48, ça va être long. C'est que finalement, les candidatures qui sont favorisées, c'est celles qui associent plusieurs pays ou des États-continents.
Et c'est pour ça, et c'est ce qui se passe donc du coup pour, j'allais dire, la Coupe du Monde de l'ALENA, Canada, États-Unis, Mexico en fait.
Et puis après, ce sera la Chine évidemment.
Claude, rapidement.
Juste une chose. On est parti pour parler football et politique. Il y a évidemment l'utilisation par des États, par des régimes, mais également par le régime démocratique macronien. Il y a une telle symbiose entre Kylian Mbappé, son efficacité parfaite, et l'actuel président. Mais il y a aussi une tradition dans l'histoire du football d'opposition. Le club des Corinthians au Brésil, qui était un club d'opposition à la junte militaire. L'équipe itinérante du FLN pendant la guerre d'Algérie. Ce qu'est l'équipe de football de São Paulo, qui est la deuxième équipe de Hambourg, et qui est une équipe rouge, très dure, rouge et noir, anarchiste. Voilà. Il y a toutes les traditions politiques que l'on peut trouver.
C'était le Spartak à Moscou, d'ailleurs, aussi, y compris en face du Dynamo. Oui. Enfin,
c'est quand même assez minoritaire.
Mais une fois qu'on a dit ça, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir toutes les narrations politiques que l'on veut, de puissance étatique, de contre-puissance. On oublie quelque chose, simplement, et c'est très compliqué à faire admettre. Il y a une beauté intrinsèque du jeu, de l'art du football, qui est indépendant. On admet parfaitement qu'un prince autocrate aidait un compositeur de musique, ou un philosophe, ou peu importe. Il y a une beauté propre au football, que connaissent ses techniciens, que ressentent ceux qu'ils regardent. Elle est même indépendante de la ferveur populaire. Quand je disais tout à l'heure que je souhaitais à notre jeune ami beaucoup de souvenirs, il y a par moments, pas seulement dans les Coupes du Monde, mais aussi dans les Coupes du Monde, des moments de grâce et de jeu, des gestes dont on se souvient. La révélation d'un personnage, d'une équipe, d'un style, cela compte aussi. Et on ne comprend rien, je pense, à l'attrait qu'exerce le football si on n'a pas ce pur plaisir d'aficionado esthétique, de la même manière qu'il y a des corridas sublimes, des tableaux sublimes, des compositions musicales sublimes. Il y a des matchs qui ont une beauté intrinsèque Et j'espère qu'on la retrouvera aussi, ça.
On va repasser au standard dans une seconde, Fabrice.
Juste au niveau des chiffres, Fabienne, pourquoi on organiserait plus une Coupe du Monde de foot que des Jeux Olympiques? C'est une question de prix aussi.
Bien sûr, aussi.
Aujourd'hui, c'est entre 6 milliards, peut-être pour la Russie. La Russie qui a dépensé 35 milliards pour organiser les Jeux d'hiver. Et si on compare à des Jeux d'été... Bon, voilà, on est entre 12 pour Londres. Donc, c'est moins cher d'organiser une Coupe du Monde, moins de sport, c'est moins compliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a plus de candidats. Faut pas l'oublier.
Et pour finir avec ce que vous disiez, Claude, cela dit, moi, je pense que ce que vous décrivez là, sur le beau geste, sur la beauté du foot, on le retrouve aussi dans d'autres sports. On se souvient aussi des 100 mètres, par exemple. Il y a des moments de sport comme ça, c'est pas seulement le foot. Il y a des moments de sport et de messe autour d'un stade. Moi, je me souviens des 100 mètres de Carl Lewis. Je me souviens des sauts en longueur de Carl Lewis. Je me souviens de tout ça.
Allons plus loin.
Un peu plus comme
un des plus beaux 100 mètres, un des plus beaux 100 mètres, un des plus beaux moments de sport intrinsèque que j'ai vu. J'étais jeune journaliste, j'avais une chance extraordinaire. Je suis à Séoul en 1988 pour la finale du 100 mètres. Un des plus beaux 100 mètres que je vois, c'est Ben Johnson qui l'emporte, le Canadien. C'est une course sublime. Ben Johnson était dopé.
Ouais.
On l'a déchu. C'était un scandale ambulant. Pourtant, est-ce qu'on va refaire la photo comme sous Staline? Il a couru ce jour-là et il a couru magnifiquement. L'impression que ça m'a fait, je vous en reparle, j'en ressens encore un frisson et quelque part une partie de moi, on va dire, moins structuré politiquement, vibre encore pour Ben Johnson, dont je soutiens qu'il est le véritable champion olympique cette année-là, parce que je ne mettrai pas 100 balles sur la vertu absolue Carl Lewis par ailleurs. Et peu importe, parce que c'était beau, n'oubliez jamais que nous aimons le Tour de France cycliste, pour être un autre
sport, exactement ce que
même de ce qui peut se passer.
C'est exactement ce que j'allais dire, la beauté du Tour.
Vivette Horner, vas-y.
Et ça, voilà, ça, c'est pas à vous, Fabrice, que c'est pas vous qui direz le contraire. Moi, je l'ai fait, le Tour de France, une fois, les lacets qui montent et les coureurs tout en couleur, sachant très bien qu'on sait qu'ils sont pas tous à Leclerc, mais la beauté,
oui,
elle
existe.
Oui, et
puis le gagnant est toujours déclassé quelques années après.
Souvent, comme ça, ça permet.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Oh, ça va venir.
Ça va peut-être revenir.
Je crois qu'il y a une vérité du moment qui est supérieure à ce qu'on peut en faire derrière.
Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir Madame Saint-Esse, comment allez-vous?
Mais très bien, allez-y Bénédicte, on vous écoute.
Alors il s'agit d'un témoignage, hein. Je suis ravie de vous avoir au téléphone et d'avoir aussi Monsieur Claude Laskolovic à vos côtés. Moi je voulais juste témoigner que je suis maman de deux enfants et grâce au football, grâce à ce mondial, on va un petit peu éclater en fait que le côté sportif, mais ça nous permet effectivement d'aborder les territoires, la géopolitique simplement, humblement, ils sont petits hein, les petits. Hein.
Mais, ils ont quel âge hein?
Mais c'est un outil pédagogique formidable que j'ai pu utiliser à Paris, par exemple à Belleville, avec des gens en fait venant d'un petit peu de tous les horizons pour faire vite. Mais c'est un outil formidable et les petits ont 6 et 9 ans. Voilà. Donc voilà, 6 et 9 ans et donc c'est un moment que j'ai envie de leur faire partager fort, au-delà effectivement de combien ça coûte, effectivement on est chez Poutine, effectivement en fait voilà, il y a toutes ces incointances qui sont un peu gênantes. Je peux aussi rejoindre en fait votre deuxième locuteur tout à l'heure, mais c'est aussi un moment qu'on peut sublimer, qu'on peut en fait appréhender un peu différemment, et puis ça donne de la ferveur dans les familles, ça donne des ferveurs en fait entre amis, et ça reste quand même un grand moment, une grande joie, et je le souhaite autant qu'il y a 20 ans.
Merci pour ce témoignage Bénédicte, là-dessus Paul Dietschy.
Oui, le football c'est une forme d'ouverture au monde, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a quand même permis d'ériger une sorte de dieu du football, un noir, Pelé dans les années 60-70, un moment quand même où le monde était marqué à la fois par de fortes discriminations et de forts préjugés. Beaucoup de jeunes gens, j'en faisais partie, ont aussi appris une partie de la géographie avec le football, qui connaîtraient Auxerre, Laval ou des villes étrangères. Donc la Coupe du Monde, c'est aussi un moment...
Qui irait à Auxerre et Laval, pardon,
oui.
C'est une plaisanterie.
Il y a aussi le fait que la Coupe du Monde, c'est le moment où il y a des petites équipes. Dans le football d'aujourd'hui, qui est concentré autour de grandes ligues, de quelques grands clubs, bah, on voit l'équipe d'Iran, on voit l'équipe d'Arabie Saoudite. C'est pas forcément le pays dont on rêve, mais en tout cas, eh bien, il y a une forme d'universalisme qui était voulue d'ailleurs par les premiers dirigeants de la FIFA, puis par Jules Rimet, qui existe encore un petit peu.
Alors, Fabrice, allez-y.
Cette Coupe du Monde n'est-elle pas tout simplement le moment où il faut lâcher prise pour profiter des choses sans penser forcément à la politique? Le sport permet ça aujourd'hui. Il faut se laisser transporter. Effectivement, moi, mes souvenirs, c'est Séville 82, c'est l'échec de la Coupe du Monde 86. Et puis, on est arrivé jusqu'à 1998 avec cette victoire en Coupe du Monde de l'enfant, du jeune garçon. Le ballon, tout le monde le pratique. Garçon, fille, dès le plus jeune âge, on est amené à taper dans cette balle. Et le foot peut concerner vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, ne pensons pas à la Russie de Poutine. Si on regarde un match de foot, on regarde le foot pour le foot. On essaie de se laisser prendre par la ferveur. Quand vous êtes dans un stade, vous ne pensez plus à rien. Vous écoutez le bruit qui monte. Vous regardez le geste, le beau geste. Vous l'appréciez. C'est aussi ça, le foot. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui.
C'est marrant, je reçois ce mail sur franceinter.fr. Bonjour, je déteste, j'aborde, j'exècre le foot pour tellement de raisons. J'ai passé le temps du match de 98 dos à l'écran. Suis-je anormal? J'ai envie de dire bah oui, parce que c'était pas la peine de se faire du mal en étant dos à l'écran. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Claude Ascolovitch?
En 1966, un des plus grands joueurs de football de l'histoire, qui jouait, si ma mémoire est bonne, à Manchester United et qui s'appelait Dennis Law, a passé la finale de la Coupe du Monde, remportée par l'Angleterre face à l'Allemagne, à jouer au golf sous une pluie battante. Et quand il est rentré au club, on a dit à Dennis Law, l'Angleterre a gagné. Il a dit, c'est le comble d'une mauvaise journée. Il faut dire qu'il était écossais. Le football est aussi un moment où on peut prendre les choses au sérieux. Un écossais ne se réjouit pas d'une victoire anglaise. Je ne sais pas si c'est général. Mais encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec le boycott, tourner le dos à un écran, c'est encore rendre hommage à l'écran, à ce qu'il y a dedans. C'est la puissance magique ou vénéneuse du football. Cher ami, si ça vous énerve à ce point-là, c'est qu'au fond, vous êtes amoureux. Tous les gens qui ont vu des comédies musicales américaines avec Rock Hudson et Doris Day le savent. À la fin, vous vous marierez avec votre écran.
Paul Yetchi, pour revenir à ce que vous disiez, alors ça n'a qu'un temps en fait, cette espèce d'ambiance-là, ça dure pas longtemps. Mais je pense à Mohamed Salah par exemple, à Liverpool en ce moment, avec ce chant de supporters qui dit je me souviens plus, mais si Marc débute, on va tous se convertir à l'islam. Ça a une vertu quand même, ça ou pas?
Oui, je pense que ça a quand même une vertu d'ouverture, mais en même temps, tout dépend des sociétés. Hein, si vous prenez les sociétés en Europe, par exemple, dans lesquelles l'immigration est assez récente et qui sont en tension sur la question des migrations, le regard sur l'étranger, le joueur africain, etc., il est très différent. Hein, les cris de banane, etc., c'est plutôt dans l'Europe du Sud. En France, il y a des formes de racisme, mais pas, me semble-t-il, en Ligue 1. Au Royaume-Uni aussi, parce qu'on est des sociétés quand même qui avons connu des empires coloniaux, et finalement cette présence, elle fait que le regard sur le joueur noir, il est différent. Bon, en France, c'est depuis les années 30, le premier joueur noir en équipe de France, c'est en 31, c'est le fils du premier ministre noir de la République, Blaise Diagne. Donc je pense que ça dépend évidemment des sociétés. Après, il y a une différence entre les terrains de football du haut niveau et celle du monde amateur, où finalement le racisme quotidien peut se donner libre cours.
Claude.
Sur Liverpool, juste une précision. Liverpool est une ville qui a un énorme sens de l'humour, et les supporters de football anglais, singulièrement ceux de Liverpool ou d'Everton, le club jumeau à Liverpool, ont un sens de l'humour. Quand ils chantent cela, ils sont en même temps en train de plaisanter sur ce qu'ils savent être les préjugés de nos sociétés occidentales, pour plein de raisons, donc ils en plaisantent. Il y a ces blagues-là de foot, il y a une culture collective et une culture du dialogue collectif dans les stades de football anglais qui ne sont pas que du wiggilisme, de la violence, mais aussi une expression populaire, pour le coup de la classe ouvrière anglaise, qu'on entend très bien là, très amusante. Il y a 10 000 exemples de ça, ce qu'ils font avec Salah n'en est qu'un autre. Et c'est quelque chose qui dure depuis que le football et la working class se sont rencontrés dans ce vieux pays anglais.
Bonsoir Jean.
Bonsoir,
soyez le bienvenu Jean, on vous écoute.
Merci, déjà je voulais vous féliciter de la qualité de vos émissions. Et moi, je voulais juste témoigner sur le fait que j'ai fait l'Euro 2012 en Ukraine il y a quelques années maintenant. Et surtout, en fait, je retiens surtout de ça une énorme fête. On était trois Français parmi des pays, un nombre de pays incalculable. Et c'est là où on a vécu quelque chose d'assez fort à trois copains. Et on a mis une heure et demie pour faire un kilomètre, parce que tous les gens s'arrêtaient, nous interpellaient, nous disaient, ah, vous êtes Français, c'est génial et tout. Et là, on s'est aperçu réellement de ce qu'être Français à l'étranger. Et pour ça, je recommande à tout le monde réellement d'aller faire un euro, un mondial, c'est quelque chose qui arrive une fois, deux fois dans sa vie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
Eh ben merci beaucoup Jean, donc tout le monde à Moscou, allez, pour vivre cette ambiance-là. Et c'est vrai, j'imagine que vous en avez fait, Paul Yetchi, c'est particulier d'être dans cette ambiance-là, encore une fois, pour le temps que ça dure, en fait.
Oui, D'ailleurs, je vais la semaine prochaine à Moscou, justement. Ben donc, voilà. Je vais vous revoir. Mais il y a, un caractère tout à fait gratuit là-dedans, un peu comme les fêtes d'Ancien Régime, des fêtes de printemps avec un fond de paganisme, où tout d'un coup, on va fêter le retour des beaux jours, mais on va tout dépenser ce qu'on a. Sans finalement penser au lendemain, mais c'est évidemment ce côté gratuit, c'est aussi le fait que ensuite il n'y a pas de conséquences immédiates. Si vous prenez l'euro dont on parlait, Pologne et Ukraine, le vœu de Platini, c'était finalement développer le football, redonner sa place à l'est de l'Europe. Bon, c'est pas ça qui finalement a arrangé la situation de l'Ukraine. On voit bien quelle est la situation. Et puis la Pologne, c'est pas ça qui l'a ancrée particulièrement à l'Ouest. Donc, ça veut dire que c'est des événements qui sont purement ponctuels, mais qui doivent être pris comme tels, c'est-à-dire un moment de fête éphémère. Mais on a le droit d'être joyeux dans la vie.
Mais alors, est-ce que ça change quand même quelque chose? On s'est très bien habitué aux fanzones, j'allais dire hélas, mais on s'est très bien habitué. Ça change quand même quelque chose à cette, à ce côté très festif, non? On déambule moins dans les rues de manière purement aléatoire qu'on pouvait le faire. On se fait fouiller, on se fait encadrer à l'intérieur de la fanzone. C'est un peu différent quand même, non?
Oui, bah ça, c'est évidemment le problème du terrorisme qui fait que, on prend ces mesures de sécurité. Il y a un autre aspect, qu'évoquait Claude Askolovitch, c'est la question des supporters. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens des classes populaires dans les stades de la première ligue aujourd'hui. Les places sont tellement chères. Donc, c'est aussi, cet aspect.
Je crois parier que Liverpool l'a préservé, mais.
Liverpool, c'est assez cher quand même, hein. Les places sont très.
Ils tiennent encore.
Oui.
Manchester, c'était devenu horrible à un moment donné.
Mais il y a de plus en plus d'étrangers, notamment d'asiatiques, qui prennent ces places-là. Et pour la Coupe du Monde, c'est un peu la même chose,
hein. Combien ça coûte, Fabrice, vous savez ça? Combien ça coûte une place, là, en ce moment, pour les phases qualificatives? Donc, c'est pas les matchs les plus intéressants.
Si on prend l'équipe de France, il y a certains supporters qui ont été invités par la fédération, donc c'est le cas aussi pour certaines fédérations qui invitent, mais après effectivement les prix sont assez chers. Je suis incapable de vous donner aujourd'hui l'échelle, mais il faut ajouter le voyage, l'hébergement, donc de toute façon c'est réservé à, malgré tout, j'ai envie de vous dire, une certaine élite en dehors de ceux qui peuvent bénéficier des faveurs d'une fédération, et ça c'est réservé aux plus fidèles. Mais oui, les places dans les stades coûte assez cher. Après, sur Paris 2024, par exemple, on sait qu'on trouvera des places en dessous de 50 euros, ça, il n'y a pas de souci. Il y a quelques places comme ça, mais derrière, si vous êtes obligé d'aller 15 jours à Moscou, voilà, ce n'est pas simple.
Tiens, je voudrais... Pardon, allez-y.
Oui, les fanzones, en fait, c'est la même chose que dans le film Looking for Eric, où vous avez supporté de Manchester United, qui vont au pub pour regarder le match, parce que c'est devenu tellement cher, ils se reconnaissent plus dans le club.
Ça, c'est à Manchester, où des supporters ont même créé une équipe parallèle pour protester contre l'influence des propriétaires américains.
Et la fanzone, c'est le mondial des pauvres, en fait.
Tiens, je voudrais lire pour terminer ce mail qui nous vient d'Antoine sur franceinter.fr. Je vis dans une famille qui déteste le foot, classe moyenne supérieure, il faut bien le dire. Mon grand-père d'éteint avec le reste de la famille, ancien chauffeur de taxi et fan de foot, mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est avec lui. Nos soirées match sont pour moi inoubliables. Lui et moi, on a toujours eu un peu honte au repas de famille, mais tant pis. Le foot laisse aux gens des souvenirs merveilleux de partage et d'amour. Bah écoutez, voilà, ce sera ça le mot de la fin et la conclusion. Merci à tous et portez-vous bien.